De toutes les histoires qu'on m'ait racontées dans ma vie, je pense que celle qui m'a le plus marqué, je l'ai lue dans La Recherche du Temps Perdu. C'est une scène du tout début qui parle justement de cet art qu'on a tous et toutes de se raconter des histoires. De mémoire, parce que le petit Marcel a en horreur d'aller se coucher loin de sa mère et de sa grand-mère. Il est comme ça. On lui a donné une lanterne magique, ce qui lui permet de projeter des images sur le mur par le prisme de sa lampe de chevet. Et voilà que s'anime sa chambre d'enfant, non pas d'images, mais d'histoires qui prennent de plus en plus de place, au point que plus rien ne compte. De mémoire, l'histoire tragique d'une héroïne du Moyen-Âge qui est poursuivie par un affreux personnage. Et n'allez pas me dire qu'il n'existe pas cet affreux personnage, puisque le petit Marcel le voit, il existe, il est dans la chambre, il s'arrête même un instant pour écouter la grande tante qui est en train de parler avant de repartir dans sa chevauchée. Il suffit de faire bouger un petit peu la lanterne magique pour le voir s'en aller sur son cheval qui galope sur le rideau. Cette histoire, elle est au cœur de La Recherche du Temps Perdu. Elle en est même, pour certains, une sorte de clé ou de guide dans le labyrinthe du roman de Marcel. Marcel Proust, la lanterne magique. Tu parles d'une histoire.
Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Boomerang, mon invité à l'art de nous raconter des histoires. Souvenez-vous des apprentis de Après vous, 4 ans après Dans la cour. Il revient avec un nouveau film, En liberté, présenté en mai dernier à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Une histoire de culpabilité, celle d'une femme dont le monde s'écroule lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aimait n'est pas forcément celui qu'elle croit. Un film qui se joue des codes du polar et de la comédie sur fond de folie douce. C'est évidemment un film France Inter et on en est très fiers. Bonjour Pierre Salvador.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
merci
là.
À vous.
Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous écoutez une histoire, vous ?
Je peux être très rapidement bouleversé si elle porte une part de poésie, quelque chose de sincère, de profond, et ça, les histoires m'emportent très très vite.
Vous adorez ça en fait.
J'adore les histoires et je connais leur importance, je sais leur importance dans ma vie.
Quelles histoires est-ce qu'on vous racontait, vous, quand vous étiez petit?
Mes premiers souvenirs de belles histoires, c'est quand j'étais en Corse avec mon père. Il nous emmenait à la pêche avec mon frère. On partait très très tôt le matin, parce qu'il faut descendre les rivières. Donc on montait comme ça très longtemps dans la montagne. Et puis après on commençait la pêche, hein, après 2 heures de marche. Et donc la nuit, il nous racontait des histoires. Par exemple, il pointait une constellation. Il disait, bah voilà, ça c'est Cassiopée. Et après, il nous racontait l'histoire de Cassiopée. Il avait un mélange d'élégance et de trivialité. Il disait, c'est une pépée qui a fait ceci. Ou alors, il nous racontait l'histoire du peuple juif. Ou alors, il nous racontait l'histoire de... comme ça, d'Ulysse, où c'était extraordinaire.
Et en quoi est-ce que ça a façonné votre conception de la fiction, Pierre Salvadori? Parce que c'est ça, en fait, que je racontais à travers le passage de la lanterne magique chez Proust.
Peut-être parce que tout simplement, je m'en rappelle encore si bien aujourd'hui, et avec émotion, et parce que j'ai la conviction que les histoires nous aident à grandir, que les histoires nous aident à apprendre, que les histoires nous irriguent, si vous voulez, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi.
Quand est-ce que vous avez su que vous alliez en raconter, passer votre vie à en raconter?
Peut-être que c'est vraiment récemment que je sais pas si je l'ai su, mais que j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment mon métier. Mais j'ai commencé tôt à en raconter. Je faisais du stand-up quand j'avais 18, 19 ans. J'ai commencé je voulais être comédien. Donc très vite, j'ai raconté mes propres histoires sur scène d'une façon un peu décalée et drôle, mais très rapidement.
Ça peut sauver une histoire, tiens.
Se sauver soi-même ou sauver quelqu'un? Oui, j'en ai la conviction. Moi, j'ai été sauvé par des histoires aussi.
Lesquelles?
J'ai été sauvé par des films. Souvent, sauvé quand je dis des histoires, c'est par exemple, je sais qu'une journée terrible, terrible, il y a quelqu'un qui m'a emmené voir le Hamlet de Chéreau, qui n'était pas l'histoire la plus joyeuse et la mise en scène la plus légère. Mais j'en suis sorti beaucoup, beaucoup mieux. Souvent, une lecture ou un film m'ont revitalisé, des lectures, des films ont revitalisé. Le ciel peut attendre de Lubitsch m'a montré un chemin. Enfin, c'est très souvent, voilà. Et puis la poésie ou les histoires, tout simplement, qu'on vous raconte peuvent vous faire beaucoup de bien. Moi, j'ai ça, vraiment, ça me soulève.
Assez bouleversante dans votre film, je dois dire, où le personnage de Pio Marmaille sort de prison et rentre chez lui. Sa femme, jouée par Audrey Tautou, n'est pas préparée, en fait, pour ses retrouvailles. Ouais. Alors elle lui demande de refaire, en fait, de rejouer son entrée. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'une scène comme celle-ci nous dit de ce que c'est que la fiction, de raconter des histoires.
Une scène comme celle-là, j'espère, nous dit qu'il est possible de réenchanter notre existence et qu'il faut croire au simulacre, que peut-être, au fond, il revient de prison, elle est pas prête, elle est en train de faire le ménage, elle veut que ce soit magnifique, oui. et elle n'arrive pas à recevoir cette émotion. Elle dit, mais non, mais, et à un moment, elle lui dit, ressort et reviens. Tous les deux, ils sont parfaitement conscients du caractère un peu poétique et invraisemblable de cette demande. Mais pourtant, l'émotion que ça va créer, elle va être vraie. Il revient. Elle croit en son propre mensonge et tout à coup elle est extrêmement émue, elle a accès à son émotion. Voilà. Et d'ailleurs, le faire commencer une troisième fois, j'avais très peur de le refaire une troisième fois. Personne ne me dit non, stop, ça suffit. Mais moi, je trouve que, voilà, cette scène, c'est peut-être une des plus jolies choses que j'ai pu faire parce qu'elle est, elle est hors, si vous voulez, du récit. Elle est comme une petite parenthèse, mais elle affirme très fortement ma croyance dans la fiction et dans la poésie.
En liberté, c'est donc votre 9e film. Pierre Salvadori, vous racontez l'histoire d'une femme de policier jouée par Adèle Haenel qui découvre que son mari n'est pas un héros des forces de l'ordre, mais un fiéfé ripoux qui a jeté en prison des innocents. Alors elle va tenter de réparer les torts causés par ce dernier. La culpabilité qui est centrale dans ce film, quel moteur de narration est-ce que c'est? Je me suis posé la question.
C'est comme si un fantôme invisible poussait le personnage dans son dos, si vous voulez. elle est mue par quelque chose qui a à voir avec la morale, la culpabilité. Au fond, c'est peut-être ce qui nous empêche d'être des monstres. Hein. Moi, je trouve que c'est très très important la culpabilité. Les gens disent oui, c'est judéo-chrétien, je sais pas quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment le contraire de l'indifférence. Donc elle, voilà. Et puis là, c'est un peu fou, si vous voulez. Mais c'est souvent un moteur de comédie assez intéressant parce que. Au fond, ce sont des gens. C'est pas par bonté forcément qu'ils font les choses, mais c'est un petit peu par obligation.
Parce qu'elle, en fait, elle essaye de se racheter. Elle essaye de racheter sa dette auprès de cet ancien prisonnier en essayant de le sauver, de le faire aller mieux, de le ramener à la vie. Et je me disais, ça arrive assez souvent dans votre cinéma, ce mouvement de soi vers l'autre. Oui. Pourquoi c'est si important?
L'autre est existentiel. Sans les autres, on n'est pas grand chose. Mais si vous voulez, parce que c'est beau, je trouve que la gratuité, c'est ce qui donne du sens à tout. Et puis après, en même temps, on le disait il y a 2 minutes, c'est de la culpabilité. C'est-à-dire, c'est toute l'ambiguïté de la bonté. C'est aussi pour se racheter. Adèle, elle essaye même de racheter des fautes dans le film, Adèle Haenel, des fautes qu'elle a pas commises. Mais bon, voilà, c'est un mouvement et un lien vers l'autre que je trouve extrêmement émouvant, important et en même temps qui peut faire des choses folles. Parce que c'est quand même ça l'important, c'est qu'on rigole un peu, quoi.
Bah grave. Qu'est-ce qu'on donne aux autres quand on fait un film? Précisément, Pierre Salvadori.
Ben là, j'essaie de donner de la joie, en l'occurrence, parce que et du plaisir. Ça m'était venu à Cannes en regardant la salle. C'était merveilleux. J'avais jamais vu le film en public. J'avais très peur et de voir les gens comme ça rire, c'est quelque chose qui me bouleversait, quoi. Donc oui, un plaisir et une joie et oui, c'est ça, c'est très physique. Vous savez, le rire, c'est assez viscéral. Donc, quand on arrive à provoquer ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant. C'est très étrange, hein. C'est rare qu'avec si la comédie est considérée comme une forme d'art, que ça puisse provoquer, une émotion aussi lisible, visible, physique et sensible, si vous voulez, quoi.
J'ai l'impression que vous donnez beaucoup de vous aussi. Ce film, vous dites qu'il vous a rendu malade.
Il m'a rendu malade.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ben j'avais oh putain. J'avais très mal. Je vais pas raconter l'histoire de maladie à 9h15. J'avais mal au ventre, j'aurais dû aller chez le docteur, j'y suis pas allé.
Vous avez une gastro?
Non, j'avais pas du tout une gastro. Oh non, c'était un cauchemar. Oui, donc j'ai un peu comme un bon petit soldat de la dramaturgie, j'ai serré les dents, mais après deux jours après la fin du film et une fête de tournage qui avait permis d'apaiser les souffrances, si vous voulez, en ingérant tout plein de trucs sympathiques. Bah au fond, je me suis retrouvé à l'hôpital et pour longtemps, quoi. Ouais, non, c'était chaud. Du coup, ça a un peu décalé tout, mais on s'est retrouvé à Cannes. On était prêt pour Cannes. Normalement, on aurait dû sortir bien avant.
Le film s'appelle En Liberté. Point d'exclamation. Oui. En quoi est-ce que faire du cinéma vous rend-il plus libre, vous, avec un point d'exclamation?
Je sais pas, c'est déjà le choix que j'ai fait, donc ça c'est merveilleux de pouvoir faire le métier qu'on a choisi. Ça me rend plus libre, je sais pas si ça me rend plus libre, hein. Je suis complètement obsédé par l'idée de faire des films, je suis complètement obsédé par l'idée que ces films touchent les gens, et donc non, je suis pas libre du tout, je suis complètement esclave de ma mission sur Terre, faire rigoler.
Ouais, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce qu'il y en a une qui nous rend totalement esclaves dans cette émission, Pierre, c'est la culture. Et son actualité qui n'est pas libre, et pourtant un peu libérée, délivrée, reine des neiges, reine qui s'appelle Sven. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 25 octobre?
C'est un projet qui part de la palette de Marseille, en fait. De la lumière, du du ciel, qui parle de la couleur des toits du panier, du blanc qu'on trouve à l'horizon. C'est un immeuble qui joue sur toutes les contextualités.
Chacun sa tour à Marseille. C'est aujourd'hui qu'est inaugurée la fière marseillaise, tour de 135 mètres de haut, dessinée par le star-architecte Jean Nouvel. Installée dans le quartier populaire d'Arinque, face à la mer, le bâtiment aux 30 nuances de bleu-blanc-rouge a été conçu pour dialoguer avec un autre gratte-ciel, celui de la regrettée Zaha Hadid, qui se dresse à quelques dizaines de mètres de là. Valse de films à la Viennale, rendez-vous cinéphile le plus important, le plus exigeant d'Autriche. Le Festival international du film de Vienne commence dès ce soir au Gartenbau Kino, le plus vieux cinéma de la ville, avec la projection d'Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacker. Jusqu'au 8 novembre, près de 300 œuvres y seront projetées. Côté français, on attend notamment Gaspard Noé qui viendra présenter Climax, Claire Denis pour High Life et Jean-François Stévenin pour un focus des plus chics.
One book, the last few years, has been so warmly embraced by tens of millions of people. To Kill a Mockingbird.
Harper Lee, superposé en tête du classement des livres préférés des Américains à la suite d'un vote en ligne organisé par la chaîne BPS qui a mobilisé près de 4 millions d'internautes. C'est le classique de 1960, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est arrivé premier du scrutin. Il coiffe au poteau Outlander, la saga fantasy de Diana Gabaldon et l'incontournable Harry Potter.
Salam, salam, salam.
Après leur manifeste pour l'accueil des migrants, signé notamment par Isabelle Adjani, Béatrice Dalle ou Rachida Brakni, la revue Regard ainsi que Politis et Mediapart organisent ce soir une grande soirée de solidarité au 104 à Paris. L'événement sera inauguré par le cinéaste Costa Gavras puis se prolongera avec des performances du chorégraphe malien Soumaya Tounkara ou de Brigitte Fontaine notamment. Total soutien. Et le cinéaste Pierre Salvadori, invité de Boomerang ce matin pour En Liberté. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que c'est que d'écrire un film comme celui-ci, de l'art de la comédie aussi. Vous l'avez un peu esquissé. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que votre film est très dialogué, par exemple. Et c'est intéressant parce que je vous ai entendu dire qu'il fallait résister à l'ivresse d'un dialogue brillant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
J'ai dit tellement de choses.
Ah, mais c'est bien.
Je me taise
en même temps comme formule.
C'est bien que ça s'arrête. oui, parce que en fait, j'aime pas le mot d'auteur, donc j'aime pas quand ça s'entend, mais j'aime quand ça se ressent, donc c'est un peu compliqué. Si vous voulez, on a écrit ce film, il y avait une structure très précise, comme ça, ce que moi j'appelle un séquencier. Je garde tout le temps pour le dernier moment les dialogues. De façon, j'avais lu ça dans Hitchcock Truffaut quand j'ai commencé à m'intéresser à la mise en scène. Essayez d'être le plus éloquent possible par l'image avant d'en arriver au dialogue. Mais à partir du moment où on prend le son, il faut essayer d'être un peu plaisant, si vous voulez.
Donc, ça veut dire que vous savez pas du tout comment vos personnages parlent, en fait, avant la toute fin?
Non. Je sais, à la toute fin, vous vous rendez compte, il reste encore l'adaptation et les dialogues. Mais c'est, alors comment dire, d'abord, c'est le seul moment que j'aime un peu, c'est écrire les dialogues, mais il faut que je résiste, oui, à une volupté de l'écriture qui pourrait rendre le scénario parfois un tout petit peu trop explicatif ou un peu trop littéraire. C'est difficile, hein, c'est difficile. Quand j'écrivais celui-là, il y a un moment, j'ai appelé le scénariste et je lui ai dit, je crois que ça devient un peu trop littéraire, là. Mais au fond, les personnages étaient portés par des choses tellement fortes, si vous voulez, la colère, la culpabilité, le désir de vengeance, que je pouvais m'autoriser, et dans la mise en scène, et dans les dialogues, de temps en temps, des choses un tout petit peu plus, comme ça, un peu plus écrites. Ils ramenaient toujours le film, eux, les personnages, à quelque chose de viscéral et à un mouvement comme ça, fort.
Quoi. N'empêche, c'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose de votre cinéma, Pierre Salvadori, le refus d'un certain naturalisme. Je me trompe?
Non, vous vous trompez pas, Augustin, c'est la vérité. Non, mais moi, moi, je crois, comme on en a beaucoup parlé au début de l'émission, je crois beaucoup en la fiction et j'aime que les émotions m'arrivent filtrées. J'ai très très peur du vérisme au cinéma. Je peux être très très bousculé par des scènes, si vous voulez, qui paraissent trop, alors c'est intéressant, vraisemblables. C'est-à-dire qu'une impro extrêmement violente entre deux personnages qui s'engueulent, j'ai l'impression, moi, d'être dans la pièce, comme quand on est dans une pièce et qu'il y a un couple qui s'engueule devant vous et que vous commencez à être très très mal et puis ils se retournent vers vous et ils disent qu'est-ce que t'en penses. Là, voilà, ça peut ressembler à ça. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un filtre, j'ai besoin qu'il y ait des situations, j'ai besoin qu'il y ait un décalage. Il n'empêche que c'est aussi une façon d'accéder à la vérité par l'invraisemblable, par quand c'est la scène de tout à l'heure, elle lui dit ressort, reviens. C'est peu probable, même si on a besoin de ça dans nos vies, je crois, pour réenchanter un peu le quotidien, comme on dit là. Mais au fond, à l'arrivée, l'émotion, elle est réelle et elle a à voir avec une forme de vérité, je crois.
Qu'est-ce qui s'est passé là?
Bah, je sais pas. On s'est fait agresser.
Non mais tu te fous de moi? T'as vu dans quel état ils sont? Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça?
De quoi tu parles?
Mais attends, mais on n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. T'avais l'air d'un psychopathe. Oh, Putain, mais regarde ça, t'as encore du sang plein la bouche.
Oh.
Ça va, monsieur?
Pardon, oui, t'as parfaitement, madame. J'ai fait 8 ans de trou, 8 ans de ma vie pour rien. Tu vas pas m'emmerder pour 3 paires de baffes ou un sac à main.
Ah, mais c'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit à 8 ans de conneries. J'ai le droit de crever les yeux de pauvres types dans la rue, de leur péter les dents, de brûler les yeux de ces gamines, de scalper des vigiles sur le trottoir. Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé l'oreille de ce mec?
Pio Marvaille, Audrey Tautou dans En Liberté, Pierre Salvadori, Audrey Tautou, qui est une figure de votre cinéma. Vous l'aviez fait tourner dans Hors de Prix, puis dans De Vrais Mensonges. Cette fidélité, sorte de compagnonnage, en fait, ça tient à quoi?
Déjà, ça tient à l'admiration. Hein. C'est-à-dire que Audrey Tautou, j'avais eu vraiment le sentiment, quand elle disait mes dialogues, qu'ils étaient mieux écrits que ce que j'imaginais. Elle en saisissait toutes les nuances, elle a un sens de la rupture. C'est une actrice très précise, très technique, un peu comme Sandrine Kiberlain, toutes les deux, mais avec des capacité à instiller dans tout ça une émotion et une fébrilité incroyable, un tremblement. Quoi.
Donc, mais ça m'intéresse ce lien que vous avez avec vos comédiens. Je vous voyais écouter cet extrait et être ému à l'écoute de la voix de Pio Marmaille et réentendre cette scène. Ça me fait penser aussi à d'autres comédiens qui ont marqué vos débuts en tant que cinéaste. Et je pense notamment à Guillaume Depardieu dans Les Apprentis, comme Elle respire, ou encore Les Marchands de sable. Quand vous pensez à lui, vous pensez à quoi?
Ah, oh là là. Quand je pense à Guillaume, je pense vraiment à un garçon qui m'a... à une famille, à un garçon qui m'a apporté beaucoup de liberté. Ça a été une rencontre incroyable. Les fulgurances de Guillaume, sa propre liberté, son comportement, ce sont des choses qui m'ont énormément touché. Et puis sa tendresse, c'est un garçon... très gentil, vraiment, ce mot, il n'est pas pour moi péjoratif. Il y avait beaucoup de gentillesse et de douceur chez Guillaume. Et puis on était proches, on s'est beaucoup amusé. Enfin bon, voilà, c'était mon alter ego. Il y avait quelque chose. Il ressemblait à ce que j'aurais voulu être aussi. Et puis j'espère que je pouvais lui apporter moi aussi une forme de. J'allais dire. Non, je sais pas. C'était une très très belle relation, une très belle amitié. Il me manque énormément et il m'arrive d'écrire encore. Vous savez, en pensant à Guillaume ou à Marie Trintignant, à leur voix, à leur comportement. Ils sont encore très présents dans ma vie. Voilà, c'est un peu triste quand même parce que je suis désolé. Ouais.
Qu'est-ce qui fait un grand acteur pour vous?
C'est quelqu'un qui est inspirant, je trouve. Un grand acteur, c'est quelqu'un qui tout à coup devient indispensable. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à écrire, vous imaginez quelqu'un. Maintenant, Pio, par exemple, provoque beaucoup ça et tout à coup, on écrit plus vite. Tout à coup, il y a un corps, il y a un langage. Je parlais de Guillaume et ben Pio, c'est la même chose. Ils ont vraiment une langue tous les deux. Ils ont une façon de parler qui est très marrante, un peu infectieuse. Quand ils parlent à côté de vous, on se met à parler comme eux,
ah oui,
à avoir les mêmes expressions comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui sait à un moment s'imposer d'une façon douce.
C'est intéressant parce que vous racontez comment après l'échec commercial du film Les Marchands de sable, vous avez décidé de ne plus tourner qu'avec des acteurs connus à une époque.
Ben oui, c'est vrai qu'on n'est pas toujours... Bon, il y a des motivations qui peuvent être moins nobles que d'autres, mais le film était sorti et c'était un tel vide sidéral dans les salles que je suis sorti et j'ai dit au producteur, j'étais très 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 ému, j'ai dit à Philippe Martin, mon producteur, j'ai dit je veux plus jamais sortir un film en cachette, j'ai besoin de relais, j'ai besoin d'aide. Et voilà.
C'est-à-dire donc, que ça repose là-dessus pour vous?
Non, mais je pense que c'était une réaction, je l'ai dit sincèrement, mais c'était une réaction un peu forte comme ça, mais... Bon, c'est dur quand vous entendez « Allô, Toulouse, oui, trois entrées. » Merde. « Allô, en Bordeaux, deux. Ah, l'enfer, au secours, dur. Daniel Auteuil. Dis-moi Daniel Auteuil et José Garcia. » Non, mais voilà, et puis après, mais j'en ai eu besoin. Et puis, c'était aussi, ça fait peur aussi, tout à coup, de commencer à travailler avec d'autres gens que sa propre famille. Moi, j'étais beaucoup avec Guillaume et Marie. C'est pas qu'une solution de facilité.
Non, mais Pierre Salvadori, ça dit aussi quelque chose sur ce que c'est que l'économie du cinéma aujourd'hui et le fait qu'il est difficile d'avoir une seconde chance, tout simplement.
Ça dit beaucoup sur ce qu'est l'économie du cinéma. Moi, je crois, vous savez, au star system, et je pense qu'une cinématographie, une industrie, si vous voulez, cinématographique saine, elle a besoin d'un star system. Tout simplement, quand vous avez des acteurs un peu plus connus, c'est une façon de s'autoriser. Ça autorise les seconds rôles, les troisièmes rôles, et puis voilà. Et puis la machine tourne, et ça veut pas dire qu'il faut faire des films qu'avec des stars.
Non.
J'ai pas fait ça, mais c'est nécessaire, ouais.
Vous avez un rêve d'acteur ou d'actrice ou en tant que cinéaste? Ça peut être dans le monde entier.
J'ai droit à partout dans le monde.
Ouais, ça peut être des morts aussi, si vous voulez.
Ça peut être des morts. Ah, bah, Cary Grant, alors.
Ouais, Cary Grant, d'accord.
Ah ouais, oh là là.
Et les vivants?
Les vivants, Non, ben j'irais bien faire un tour aux États-Unis, mais ça me fait trop peur. Ils vont pas me laisser tranquille. Moi, je déteste les rapports de force. S'ils commencent à me gueuler dessus, moi, c'est fini, c'est terminé. Je dis d'accord.
C'est assez mignon, je trouve. On va reparler de chance ensemble, tout court, de cinéma, mais aussi de liberté juste après. Un titre de bon aloi quand même, I Want to Break Free.
Ah,
ça fait toujours du bien. Queen, très, très 1984, bien. Vous êtes sur France Inter avec Pierre Salvadori, vous écoutez Boomerang. Vous êtes libre, vous êtes là, vous êtes bien. Quel délicieux jeudi matin. I want to break free.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il a cette mine sympathique de patron de café de la place du village, avec son petit air, vous savez, de commerce, sa mauvaise foi proverbiale, ses élans comiques, son verbe haut, sa générosité, le genre qui n'hésite jamais à payer sa tournée plusieurs fois par jour, le cheveu gris souris, l'œil brun malin, la poigne ferme, avec son petit polo bleu marine ce matin, le réalisateur Pierre Salvadori.
Ah, donc c'est bien de moi que vous parlez.
Oui, mais je parlais aussi du patron de café. J'avais envie de décrire un patron de café ce matin. Je trouve ça sympa. Invité de Boomerang, donc Pierre Salvadori pour En Liberté, en salle mercredi prochain. Un film qui me semble jouer en permanence avec des codes de cinéma, et notamment ceux du polar. Qu'est-ce qu'il y a du polar, finalement, dans En Liberté ?
Il y a du polar, oui, il y a du polar. Peut-être le fait que ça se passe dans un commissariat, mais enfin, c'est vite détruit cette idée-là que c'est pas. En fond, c'est intéressant parce que vous savez, quand on écrivait le scénario, j'ai rapidement dit au scénariste, je leur ai dit, il faut très vite dire qu'on n'est pas dans une comédie policière. Il faut l'indiquer le plus vite possible et que l'intrigue, on s'en fout parce que je crois pas qu'on se rappelle d'un seul film pour son intrigue. Il n'y a pas un grand film dont on se souvienne pour son intrigue. Donc on a cherché très très rapidement le moyen d'informer le spectateur et de lui dire n'attendez pas une enquête ou n'attendez pas.
Et pour autant, quel film est-ce que vous aviez en tête, vous? Quelles images, quelles scènes?
Moi, quand je voulais faire mon film, ouais. Non, j'avais plus des sensations en tête. Il porte bien son titre, parce que c'est ça que je rêvais de faire, une mélanger avec le plus de liberté possible, des émotions très très différentes et du burlesque, de la violence, de l'amour. Enfin, j'avais envie d'un film un peu pop, un peu coloré, un peu.
Donc, on est bien d'accord que le En Liberté du film, c'est aussi votre liberté en tant que réalisateur.
Ouais, je suis content du titre pour une fois. Ouais. Je trouve que. Ouais, il résonne pas mal à pas mal d'endroits, donc écoutez, ouais, on verra.
Mais c'est intéressant que vous parliez de ce commissariat et de l'idée d'abandonner cette idée tout de suite quand je vous parle de polar, parce que c'est la manière dont vous prenez vos distances avec ces codes qui m'intéressent toujours chez vous, comme si au fond vous vous en méfiez des codes, tout en assumant le fait qu'ils permettent un peu plus de liberté.
C'est ça le film de genre, je pense qu'il faut circonscrire un peu, et c'est à l'intérieur de ça qu'on invente quelque chose réellement. Le film, c'est un monde, c'est comme un monde, et dès le début, dès les 10 premières minutes, on pose ses frontières, on pose son langage, et c'est à l'intérieur de ça qu'il faut être inventif. Parce que si tout est possible, rien ne se passe. Il faut vraiment qu'il y ait des règles, une narration, un ton, un style, et après on avance et on surprend avec ce qu'on attend. C'est ça qui est le jeu, quoi. C'est ça qui m'intéresse. La comédie, il y a un truc, il y a un impératif qui est magnifique, c'est celui d'être drôle. Mais il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas parce que sinon on perd les gens. Il faut que ce soit un peu rigoureux. Donc les codes, ils sont faits pour être détournés, mais les règles, elles sont, il faut pas s'en affranchir.
Dans la comédie, par exemple, à quelle convention est-ce que vous résistez, vous ?
Dans la comédie ? Bon, non, mais je résiste. À quelle convention je résiste ?
Ouais, à quel code ? À quel code de convention, de...
Non, mais je pense pas comme ça, j'essaie juste de...
De faciliter, en fait.
J'essaie juste, si vous voulez, il y a plein de choses, hein, c'est très compliqué, mais quand j'écris, j'ai jamais autant parlé de comédie, ce qui semblerait être un truc un peu intuitif, j'ai beaucoup réfléchi à ça, si vous voulez, maintenant, ces derniers temps, mais je sais comment je fabrique, je sais comment je pense, comment j'essaie de... Donc je crée des situations, à l'intérieur de ces situations, j'essaie quand même de distiller une forme de poésie, mais tout en préservant des choses, des contrastes et de la drôlerie, mais... C'est marrant, je sais maintenant que quand j'écris et que je suis avec un co-scénariste, il y a toujours une troisième personne à la table, un fantôme comme ça, transparent, invisible, mais très important, qui est le spectateur. Et on joue toujours avec ce personnage-là. Quand un personnage ment, le spectateur, au fond, prend de l'avance sur le protagoniste. Il dit quelque chose qui est faux, du coup le spectateur sait que c'est faux. Donc on joue avec ça, on joue avec les ironies dramatiques. Après, non, j'essaye juste de... J'essaie juste de raconter des histoires qui me touchent, qui soient sincères, et puis après de le faire d'une façon poétique. Je peux pas dire autrement, parce que pour moi, la comédie, c'est vraiment ça, c'est une forme de poésie, si vous voulez. Parce que sinon, on tombe dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le vérisme, le naturalisme, et ça m'intéresse moins. Donc c'est ma façon à moi de faire des rimes, je sais pas.
Et puis moi, à mon avis, ça a quelque chose à voir quand même avec un certain Lubitsch.
Ah oui.
Don't stop. Keep right on complaining. It's beautiful.
You know, when I first saw you, I thought you were an American.
Thank you.
Someone from another world. So entirely different. Oh, one gets so tired of one's own class.
Les voix de Myriam Hopkins et Herbert Marshall, Pierre Salvadori, c'est une scène de Trouble in Paradise, Haute Pègre en français, de Ernst Lubitsch, réalisée en 1932, dont vous avez choisi de nous parler ce matin. Pourquoi ce film? Pourquoi cette scène, tiens?
Bon, d'abord, j'ai choisi celle-là parce qu'elle est dialoguée, donc il fallait quand même que vous puissiez écouter qu'on puisse faire écouter quelque chose. C'est une scène, comme souvent chez Lubitsch, qui dès le début, pose le ton, dit le film. Très souvent chez lui, la première scène contient tout le projet du film. Et voilà, c'est très beau ce film, ça commence par une gondole qui s'approche, on est à Venise, il y a quelqu'un qui chante et ah, c'est merveilleux, et puis tout à coup on s'aperçoit que c'est la gondole qui ramasse les ordures, si vous voulez, c'est comme nous le camion poubelle, et il dit voilà, derrière les façades, il y a toujours quelque chose de plus trouble. Cette chose-là, cette affirmation, elle est dite en un plan, c'est magnifique. Ensuite, on monte le long d'un mur et il y a un personnage qui dit beginnings are difficult, le début est difficile, et on sent le réalisateur penser. Donc déjà, il partage une intimité avec le spectateur et lui dit vous savez, c'est pas facile de commencer un film. Et après, on trouve deux amoureux et on va voir un coup de foudre, comme j'en ai rarement vu au cinéma. Ils se font l'un et l'autre passer pour des aristocrates. Et puis, on comprend que pendant qu'ils parlent et qu'ils échangent des propos un peu légers, comme ça, ils se dépouillent l'un l'autre, ils se piquent tout un tas de trucs. Et puis, ils finissent par s'en apercevoir et ils se rendent tout ce qu'ils se sont volés. Et donc, ce sont des voleurs. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il lui rend sa broche. À un moment, elle lui rend sa montre. Ils sont pickpocket. Et elle lui dit, je me suis permis de la remettre à l'heure. Elle avance de 5 minutes. Donc, à l'intérieur d'une idée, il y a une deuxième idée. Et puis, voilà. Et puis, tout à coup, il lui dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? C'est un coup de foudre. C'est très beau. C'est deux personnes qui se trouvent comme ça d'emblée au début d'un film. Et après, ça va être ça. Ça va être comment, une fois qu'on s'est trouvé, comment on essaye de résister, de tenir. C'est l'histoire d'un homme qui va être amoureux de deux femmes, qui est le pendant de Sérénade à Troyes, qui est une femme amoureuse de deux hommes. Et la douleur et la volupté qui va avec ça, et avec une légèreté, une élégance dans la réalisation qui est... C'est le plus beau film de Lubitsch. Vous savez, c'est un film très drôle. Et chaque fois que c'est fini, je suis à moitié en larmes. Je me dis, mais comment on fait pour faire un truc parfait comme ça, quoi?
Vous diriez que c'est grâce à lui que vous avez compris à quoi servait un réalisateur?
Oui, c'est vraiment quand j'ai vu Le ciel peut attendre. Mais c'est même pas que j'ai compris ça, j'ai tout compris. Enfin, j'ai réussi à m'exprimer un peu. Moi, j'étais quelqu'un d'assez timide et introverti. Et quand j'ai vu Le ciel peut attendre, je trouvais ça très beau et je comprenais ce langage, et je comprenais que la personne qui produisait ce langage, c'était le réalisateur. Que réalisé par quelqu'un d'autre, ça aurait pas été la même chose. J'ai réussi à expliquer pourquoi j'aimais, j'ai réussi à comprendre pourquoi j'aimais, et à partir de là, j'ai presque découvert mon propre goût, et j'ai su à partir de là un peu plus m'exprimer. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à aligner deux mots. C'est grâce à Lubitsch.
Merci infiniment, Pierre Salvadori, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que En Liberté, votre nouveau film, avec notamment Adèle Haenel, Pio Marmaille, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Jean Passe, sort mercredi. C'est un film France Inter, c'est irrésistiblement drôle et touchant. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.
Merci
juste
beaucoup.
Après ça.
Baby. Fais de bas, je le vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Fais de bas, je le trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-moi. Fais de bas, je le vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sur de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. On bavardait sans dire un mot, le bruit de mon silence en dit non. Sentiment grandissant, figeant l'ego, prison de mots, absence de compliments. Je suis en attente, en apprentissage, je trêpe ça, je vis l'âge à la nage, je fuis l'alcoolisme. Sur la planche, pas, j'agonise. Une latence entre ce que je pense et ce que je dis, ce que j'obtiens et ce que je vise. Soit c'est le père ou bien le fils, soit la beurre ou bien la disque. La night, je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby. Crache dans mon dos, je parle de toi, crache dans ta bouche. Je serai toujours un brun négro, que t'es tes règles, que ta couche. Je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches. Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, je vois pas quand tu mouilles dans la douche. Fume qu'en relation c'est pris, lune soleil dans même rayon. Qu'une parole dans que j'écris, brume gondole dans l'océan. Femme aux yeux d'homme sans que des filles, sentiments plongés dans le néant. Puis inverse de ressenti, mais sinon se prend les devants. Je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris. Ta fragilité n'est plus à prouver, quand tout allait mal et qu'on ne savait pas. On passait du temps, essayer d'en passer, à deux pour le trait d'un nous sans toi et moi. J'ai brûlé tes lettres dans un feu de bois, mais j'ai toujours en tête nos jeux de bois. J'ai suivi l'oseille, toi la fête des bois. J'ai toujours en toi ce que t'as fait de moi. Girl all night. Je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby.
Feu de bois, Damso sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers, les médias, l'instant M.
C'était joli.
Ouais,
c'était très
c'est
joli.
Bien Damso.
Ouais, c'est bien Damso.
À ce micro, vous pouvez réécouter sur le site de France Inter et en podcast.
On aime Boomerang.
Salut Sonia.
Salut Augustin.
À demain, Annie.